Les pieds sur terre, quartier d'été.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe à Lyon, elle pourrait s'appeler « Comment je suis devenu vieux ». L'homme est un avocat qui jouit d'une certaine notoriété. C'est un soir de victoire, un procès gagné contre toute attente, un député blanchi du soupçon de trafic d'influence. Le dîner au restaurant est joyeux, très arrosé. L'avocat porte une belle cinquantaine, il parle bien, il aime plaire, il est charmant et drôle, content de lui ce soir-là. En sortant du restaurant passablement ivre, il s'avise de raccompagner une jeune collaboratrice. Au moment de la quitter, il l'embrasse, enfin c'est ce qu'il raconte ensuite, dans le coup. Il se fait un peu pressant, la jeune femme n'est pas contre. C'est alors que d'entre deux voitures surgissent deux hommes. La rencontre est brutale, l'un des deux est le mari, enfin le petit ami de la jeune collaboratrice. Il se jette sur l'avocat et le roue de coups de pied et de poing. L'avocat n'a que le temps de protéger son crâne dégarni et se laisse tomber. L'autre est enragé et se déchaîne. Au bout de quelques minutes, le deuxième homme s'interpose, visiblement choqué. « Arrête !» crie-t-il à son ami. « T'as pas vu, c'est un vieux. Laisse-le, je te dis, c'est un vieux. » L'avocat ne se souviendra ni des hommes, ni des coups, ni du sang qui tache sa chemise, mais de ces mots qui marquent sa première rencontre avec la vieillesse et son lot d'humiliation. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, trois autres histoires de rencontres dramatiques, tragiques, poétiques, mystiques, fantastiques ou drôlatiques. Des rencontres avec un autre qui nous en apprend autant sur nous que sur lui, un oiseau, une tante, une jeune femme. Des histoires enregistrées au Théâtre du Rond-Point pour Les Pieds sur Scène. Des histoires vraies racontées sur scène par ceux qui les ont vécues, dont nous vous proposons le meilleur toute cette semaine. Aujourd'hui jusqu'à 14h30, Les Pieds sur Terre, quartier d'été, en public, en son et aussi en images, puisque vous pouvez voir des vidéos sur la page des Pieds sur Terre.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je suis arrivé en France en 1992 pour faire des études du cinéma. Je voulais être réalisateur et on m'a proposé de faire de la figuration. Je me suis dit, en la faisant, je peux gagner un peu d'argent et connaître le cinéma. J'avais 20 ans et ça a très vite marché. Au début, on m'a demandé de faire le chinois, ouvrier clandestin et garçon du restaurant. Et puis avec l'âge, je suis passé au patron, celui qui exploite, sans pourtant être payé plus. Souvent, les réalisateurs trouvent que je n'avais pas assez d'accent. Il fallait en ajouter pour faire plus chinois. Genre, bœuf au gingembre, très bon, c'est un délice. Genre. Et en ce moment, je joue plutôt les chinois milliardaires, acquéreurs de Château-Bordelais. Et là, du coup, je ne parle plus français du tout. Donc depuis 15 ans, et aujourd'hui encore, être chinois, c'est mon métier. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée il y a quelques années pendant la période de restaurant chinois. Un matin, j'ai trouvé un petit oiseau dans la cour de mon immeuble. Il était noir, soyeux, et il avait les yeux encore fermés. Donc c'est un oiseau qui était probablement tombé du nid. Je l'ai installé dans un carton de chaussures Célio, et puis j'ai essayé de le nourrir, avec du pain, de la mie de pain et aussi de l'eau, comme font les enfants dans les parcs avec les canards. Mais il n'en voulait rien. Apparemment, ça ne lui plaisait pas être traité comme un canard. Donc j'ai regardé sur Internet et j'ai appris qu'il s'agissait d'un martinet, un oiseau qui est très commun, mais qui a quand même quelques particularités. Ils ne sont pas domesticables. Ils peuvent apprendre à s'envoler sans l'aide des parents. Et surtout, c'est une espèce migratrice. Les parents peuvent entamer leur migration sans attendre que leurs enfants soient prêts. Donc mon martinet était probablement un oublié de ses parents. Quand j'ai compris ça, je me suis pris encore plus d'affection pour lui. Dans cet élan maternel, j'ai décidé de tout de même essayer de lui donner quelques bases de vie et l'aider à grandir. J'ai vécu à son rythme. Je l'ai nourri toutes les 4 heures. Je faisais rouler un bout de steak haché en boulette et je l'enfonçais avec mon petit doigt jusqu'au fond de sa gorge. Et puis un bedeau avec pipette. Et je finissais en faisant un massage sur sa poitrine pour faire passer le tout. J'ai essayé aussi de lui apprendre à voler. Je le posais dans la main et j'agitais le bras dos en bas. Et par instinct, il déployait ses ailes. Mais il avait peur, il hésitait. Je sentais ses griffes accrochées à moi. Et parfois, il décidait de se lancer. Et il faisait quelques mètres avant de tomber par terre. Je l'ai emmené un peu partout avec moi. Un jour, dans un bus, je l'ai sorti de son carton pour lui montrer Paris, la Seine. Un peu comme un ami l'a fait pour moi 15 ans auparavant quand je suis arrivé à Paris. Et là, en face de moi, il y a une demoiselle qui nous a souri. Un peu à moi, un peu à l'oiseau. Donc dans mon esprit yin-yang, je me suis dit, je commence à entrevoir le côté positif de la chose. Je me suis dit, cet oiseau pourrait m'être utile. Sur un banc public dans un jardin, les demoiselles s'intéresseraient à mon oiseau. Ce serait le début d'une conversation. Et puis, ça pourrait devenir plus tactile. Je guiderais leurs mains à sentir la chaleur et la douceur de son corps. Ce serait beaucoup mieux qu'une poussette avec un bébé que je n'avais pas. Donc, tous les après-midi, je promenais mon oiseau dans un square pas loin de chez moi. J'avais l'impression d'être ces vieux monsieur chinois que j'avais connu dans mon enfance qui promenaient leurs oiseaux en cage. Sauf le mien, je l'avais au creux de ma main. Et je quêtais les choqueuses, les fumeuses, les bronzeuses, les lectrices. Mais un événement mondial a déjoué mon plan de drague. La grippe aviaire s'est déclarée en Asie. Même en France, les gens paniquaient. Donc un chinois qui se promenait avec un oiseau dans la main, les gens évitaient. Plus de demoiselles, plus de conversations attendries. Juste on me regarde d'un air bizarre. Et puis le jour est arrivé où j'ai dû quitter Paris pour un long moment, pour aller faire le chinois à Lyon. Et je ne pouvais pas emmener l'oiseau, et je ne savais pas quoi faire. J'avais entendu parler qu'au jardin des plantes, il y avait un refuge pour les animaux. Je me suis dit, il pourrait garder un moment. Alors je suis allé. Un technicien du refuge, un vétérinaire, m'a accueilli avec un air sceptique. Je ne sais pas pourquoi, il n'a pas bien compris ce que je lui demandais. Il était persuadé que je voulais lui vendre l'oiseau. J'ai protesté, mais lui, il m'a donné une petite leçon en disant « On ne peut pas faire commerce de tout, surtout avec les animaux ». Il devait avoir une idée à lui sur le genre de chinois que j'étais. Et en plus, il expliquait qu'ici, on ne s'occupe que des animaux domestiqués, pas les animaux sauvages. J'ai compris qu'il n'allait pas m'aider. Mais toutefois, je voulais lui demander comment bien faire manger l'oiseau, si je m'occupais bien de lui. Et là, il a probablement entendu comment bien cuisiner l'oiseau pour le manger. Il avait l'air choqué et il m'a dit de partir. Alors j'ai dû accélérer la formation de mon oiseau. J'avais un temps très court pour qu'il devienne autonome avant mon départ. Un beau matin, pendant la promenade habituelle, je refaisais le mouvement de bras et l'oiseau planait quelques mètres au ras du sol. Je pensais qu'il allait tomber comme d'habitude. Mais là, il s'est envolé très haut dans les airs, jusqu'à ce que je ne le vois plus. J'attendais qu'il réapparaisse, faire quelques tours au-dessus de moi. Rien. Il était parti. Et je ne pouvais même pas l'appeler. J'avais oublié de lui donner un nom. Et je restais au milieu du square, quêtant le ciel. Lui, il est retourné dans son monde de sauvage. Et moi, je suis resté dans le monde des domestiqués. Faire les Chinois qui, au mieux, essaient de vendre les oiseaux, au pire, essaient d'en faire des raviolis.
France Culture, les pieds sur terre.
Alors moi, je déteste mon anniversaire. Du coup, quand un ami, le jour de mes 30 ans, m'a proposé d'aller avec lui à Los Angeles, je me suis jetée sur l'occasion, je me suis dit « super, je vais échapper à cette horrible journée ». Avec le décalage horaire, évidemment, la journée a duré 32 heures. Donc ça a été l'anniversaire le plus long de ma vie. En bon touriste, nous sommes allés à Las Vegas. Donc à Las Vegas, les croupiers ont des sombreros, les gens ont des claquettes. Et les joueurs posent des montagnes de jetons en disant des trucs comme « come on, baby » ou « yeah ». Mon ami m'a dit « j'ai toutes les addictions, y compris le jeu ». Je l'ai regardé jouer. Moi, je me suis couché et je me suis dit que je retournerais jamais dans cette ville. Un an plus tard, je suis retourné dans cette ville avec un autre ami. Là, je me suis installé à une table de roulette. Là, on peut dire que j'ai rencontré le jeu, en fait. Je me souviens, il y avait une dame dont tout le maquillage avait coulé. Elle buvait des gin tonic. Il était 9h du matin. Bon, moi, je suis un peu rat, donc je joue pas beaucoup. Hein. Donc, je mettais des jetons sur la table, mais j'avais l'impression que je touchais à une plaque de cuisson. Et je m'étais fixé un budget à ne pas dépasser 15 dollars. Je me souviens plus du tout si j'ai gagné ou pas. En revanche, je me souviens que j'ai beaucoup aimé. Du coup, quand je suis rentré en France, je me suis mis à jouer à la roulette. J'ai choisi mes numéros. 0, 14, 17, 20, 23, 27. Je joue toujours la même chose. C'est complètement arbitraire. Mais si jamais je ne joue pas ces numéros, j'ai le sentiment que quelque chose d'horrible va m'arriver. En revanche, si la bille tombe sur mon numéro, alors là, je sais pas, j'ai l'impression d'être en connexion avec le grand créateur. J'ai converti un troisième ami et avec lui, nous faisons des week-end casinos. C'est-à-dire que nous allons en week-end à la découverte de nouvelles villes qui ont des roulettes. Alors, c'est des villes qui ont souvent des noms qui se terminent par les eaux ou les bains. Saint-Amand-les-Eaux, Pougues-les-Eaux, Forges-les-Eaux, Vals-les-Bains, Alette-les-Bains, Divonne-les-Bains, Plombières-les-Bains, Niederbronn-les-Bains. On y va avec cette idée de découvrir une nouvelle table, alors qu'en fait, il se passe tout le temps la même chose, hein, bien sûr. Il y a toujours une dame un peu bourrée qui sort ses jetons de son sac. Il y a toujours deux, trois jeunes de banlieue pavillonnaire avec des lunettes de soleil dans les cheveux. Il y a toujours un monsieur qui garde son blouson, quelle que soit la température, et qui dit que tout est truqué, de toute façon. Moi, j'ai beaucoup lu sur la roulette. Je me suis beaucoup intéressé à son histoire. J'ai complété la notice Wikipédia sur la roulette. Et j'ai sophistiqué mon addiction. J'ai décidé, par exemple, que je préférais la roulette française à la roulette américaine ou anglaise. La roulette française, en fait, c'est une variante beaucoup plus chic, beaucoup plus élégante, beaucoup plus ésotérique aussi, puisque au lieu que l'on place les jetons sur le tableau de jeu bêtement, on les confie au croupier. Et on lui donne des ordres pour initier, comme 28 et les deux par deux pièces, s'il vous plaît. 0 et orphelin, merci. Ah, et 17 et vertigo, s'il vous plaît. Et j'adore, en fait, ce ballet orchestré par les croupiers. Je trouve stoïque, élégant. Et un jour, je me suis même demandé si, à la roulette, c'est pas eux que je préférais, en fait. Ils étaient au-dessus de la vanité de ce jeu. Je pense qu'ils jouent même pas eux-mêmes, hein. Je me suis mis à fréquenter des forums de croupiers sur Internet. J'essaye d'être toujours très complice avec eux. Je les encourage mentalement, mais ils s'en foutent, hein, bien sûr. Je leur donne des pourboires, je calcule les gains parfois plus vite qu'eux, mais je leur dis pas. Il y a un an et demi, un ami m'a offert une roulette hyper belle, en acajou, en inox, super belle. Puis mon frère m'a offert des jetons personnalisés. Moi, j'ai acheté la panoplie, après j'ai acheté un râteau, un tapis, etc. Et du coup, maintenant, je peux jouer au croupier comme on joue à la marchande, quoi. J'ai mes petits jetons, j'ai mes petits rituels. Bonsoir, monsieur. Rien ne va plus. Je suis invité dans des soirées où je fais mon nouveau métier. J'arrive, je pose ma roulette, mon tapis, je distribue les jeux, les gains, etc. Je demande à ce qu'on me demande de placer des trucs très compliqués sur la table. Donc des fois, je suis dans la rue à 3h du matin, en smoking, avec une grosse valise où il y a tout mon attirail. Je pense que je ressemble à un magicien bizarre. Mais j'ai le sentiment d'être un charlatan, parce que je ne suis pas vraiment croupier. En fait, dans la vraie vie, je travaille dans une grande agence de publicité où on a aussi un jargon, hein, on fait des PPM, des Plainsboard, des Recos, des Propals. Tout ça très très loin de l'élégantissime roulette française. Je m'en suis ouvert à ma chef à un entretien annuel. Je lui ai dit que il était possible que je demande un jour 6 mois sabbatique pour faire une formation de croupier et une saison. Bah, elle a été très compréhensive. Et elle m'a laissé même entendre que l'entreprise pourrait payer ma formation. Alors, je la soupçonne de vouloir que je la fasse gagner si elle vient dans mon casino. Mais je resterai stoïque et incorruptible, comme un vrai croupier.
C'était un jour d'automne en 1992, au milieu de la guerre de Bosnie. À l'époque, j'étais pigiste. Je partageais un appartement à Zagreb, la capitale de la Croatie, avec une amie journaliste américaine. J'y passais environ 5 jours, 5 jours d'un calme relatif, à l'abri du front et des bombardements. Un matin, je me suis réveillée avec l'impression d'avoir plutôt très bien dormi et d'avoir pour une fois échappé aux insomnies qui perturbaient mon sommeil depuis que je couvrais cette guerre. Je suis sortie de mon lit, j'ai allumé la lumière et la pièce est restée sombre. Je me suis dirigée à tâtons vers le salon, étonnée qu'il fasse toujours aussi noir. Et là, mon amie Laura a hurlé. « Isabelle, what happened? What happened to your face ?» J'ai mis mes mains sur mon visage, j'ai senti ma peau brûlante, gonflée, tuméfiée. Mon visage s'était transformé en une espèce de gigantesque ballon complètement suppurant. Je pouvais plus soulever mes paupières, j'avais des espèces de balles de tennis à la place des yeux. C'était la panique. Qu'est-ce que j'avais fait? Comment avais-je pu me transformer en une elephant woman pendant la nuit? Est-ce que j'étais allergique à quelque chose? Est-ce que j'allais étouffer? Les médecins croates ont tout de suite exclu l'œdème de Quinck. Ils m'ont fait 1 ou 2 piqûres, mais j'ai pas dégonflé. Je suis restée 2 jours toute seule dans cet appartement, très angoissée. Je m'étais transformée en un monstre et je ne comprenais pas pourquoi. Il faut dire que depuis 6 mois, je n'avais pas arrêté. C'était ma première guerre et je ne connaissais pas mes limites. J'avais enchaîné les reportages, des enquêtes, trop dures pour moi. J'avais passé 3 jours toute seule sur un charnier à Mostar, une ville de Bosnie, moitié croate, moitié musulmane, bombardée par les forces serbes depuis le haut des collines. J'avais assisté à l'extraction de plusieurs centaines de cadavres, pour la plupart des civils, dont certains avaient été exécutés d'une balle dans la tête. J'avais assisté au défilé des familles qui venaient présenter leur papier d'identité pour prouver l'origine ethnique des morts. Quand je suis rentrée à mon hôtel de Split, la ville croate frontalière de Bosnie, j'ai dû jeter tous mes vêtements et mes chaussures. Tout sentait la mort, une odeur épouvantable, infecte, qui s'imprégnait dans les tissus, dans les cheveux, sur la peau. Après ça, j'avais travaillé pendant plusieurs semaines sur la dégradation des relations entre Croates et musulmans, un autre conflit qui qui allait se rajouter à la guerre plus connue contre les Serbes. Je me suis retrouvée au fond d'une vallée, quand les hostilités ont commencé, et que les Croates et les musulmans ont commencé à se tirer dessus depuis les collines qui surplombaient l'endroit où j'étais. Je me suis retrouvée prise au piège. J'ai dû ramper pendant des heures, au milieu des bombardements, avec les mortiers qui tombaient tout autour de moi. Et puis j'ai dû mettre mon passeport français au bout d'un bâton et aussi un petit mouchoir blanc pour franchir cette nouvelle ligne de front. Pendant toute cette période, j'ai aussi travaillé sur les viols de femmes musulmanes. C'était une arme de guerre très couramment utilisée par les combattants serbes de Karadžić et de Mladić, les chefs militaires et politiques des Serbes de Bosnie, qui servait le projet politique de Slobodan Milošević et voulait instaurer une grande Serbie sur les ruines de l'ancienne Yougoslavie. J'ai travaillé plusieurs mois sur cette histoire, j'ai recueilli tous les reportages et les preuves nécessaires, mais j'ai jamais pu écrire le papier. J'avais l'impression d'être arrivée à la limite de ce qu'il était possible de raconter, pas seulement pour les lecteurs, mais aussi pour moi. C'était ma première guerre et je ne connaissais pas mes limites. Quand mon visage s'est transformé en celui d'un monstre, quand je suis devenue Elephant Woman, je suis rentrée à Paris. J'avais demandé à un ami de venir me chercher à l'aéroport. On ne s'est jamais retrouvés. Il ne m'a pas reconnue. On m'a emmenée à l'hôpital Saint-Louis dans le service de dermatologie. On m'a fait plein de tests, sans résultat. Tous les tests d'allergie ont été négatifs. On a pris mon visage en photo, on l'a envoyé à des spécialistes étrangers. Sans résultat, personne ne trouvait. Je suis restée 3 mois dans ce service, ponctuée de séjours en Bosnie, sous haute dose de cortisone. Je prenais de la cortisone, et quand mon visage commençait à dégonfler, je partais à Sarajevo, je pouvais pas m'en empêcher. Quand j'étais obligée d'arrêter la cortisone, je rentrais et j'allais dans le service de dermatologie. Au bout de plusieurs semaines, j'ai commencé à suggérer aux spécialistes que ma maladie était peut-être liée à la guerre, avait peut-être des raisons psychosomatiques. Je leur ai expliqué ce que je vivais en tant que reporter de guerre. Je me suis heurtée à un mur. Une telle réaction dermatologique, suite à des chocs affectifs ou psychologiques, m'ont-ils dit, c'est impossible. Au bout de 3 mois, ils m'ont conseillé d'aller voir ailleurs, dans d'autres hôpitaux. D'autres médecins, me disaient-ils, auront peut-être d'autres idées, mais nous, on cale. Et puis si vous tenez toujours à vos histoires psychosomatiques, m'a dit l'un d'eux, allez donc voir dans le couloir d'à côté Madame Intel. Elle se prétend psychodermato. Nous, on la prend pas au sérieux. J'étais furieuse qu'il m'ait caché l'existence de cette médecin pendant si longtemps. Furax, virée du service, j'ai frappé à la porte qu'on m'avait indiquée. J'ai résumé mon cas en quelques phrases. La spécialiste m'a donné rendez-vous le lendemain dans son cabinet privé, sans hésiter et en me disant juste « Ne cherchez plus, vous êtes pour moi ». La thérapie a duré 5 ou 6 séances, elle m'analysait mes rêves. Et puis un jour, ou plutôt une nuit, la maladie est partie, d'un coup. Je l'ai su en faisant un cauchemar particulier. Du jour au lendemain, j'ai récupéré mon visage, je suis redevenue complètement normale. Après, j'ai couvert d'autres guerres, mais plus de la même manière. Cette fois, je connaissais mes limites. Quant à ma thérapeute, elle m'a demandé l'autorisation d'écrire mon histoire dans un de ses livres, où elle m'a décrit comme l'un des succès les plus spectaculaires de sa carrière. « Quand je vous ai vu arriver, avec votre allergie à la guerre, m'a-t-elle dit, j'ai bien cru qu'on en avait pour 10 ans. »
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec un épisode remonté des pieds sur scène, enregistré en public au Théâtre du Rond-Point le samedi 20 juin 2015, réalisé par Annabelle Brouard avec un coup de main de Philippe Baudouin. Ces histoires sont réécoutables, bien sûr podcastables comme d'habitude, mais cette fois vous pouvez aussi les voir en images sur le site de France Culture. À la page des Pieds sur Terre, nous avions capté des vidéos. Et si vous voulez voir Les Pieds sur scène en vrai, avec certains des intervenants de cette semaine et d'aujourd'hui, comme Côme Martin Carle, rendez-vous au Théâtre d'Autun, dimanche 15 juillet. Ce dimanche, il y a deux représentations, des pieds sur scène, une à 11h et une à 14h. C'est dans le cadre des rencontres de juillet, le Festival des Histoires Vraies. On y sera et on vous y attend. Merci pour cette émission à Chen Xiaoxing, à Côme Martin Carle et à Isabelle Lasserre, à Sandrine Trainer, à Mélanie Lereux, à Virginie Noël, à Anaïs Obaidi et à Anaë Luong. C'est Sandrine Chaperon, l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et il y avait aussi Valérie Borst dans les parages.